Radio Kapi. Le journal en français, Noëlla Lozitou Kabambi.
Rencontre hier à Genève en Suisse entre la première ministre de la RDC et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge. Les échanges entre Judith Souminois et Maxime Prévost ont tourné autour des décisions de l'Union européenne face à l'agression du Rwanda dans l'est de la RDC ainsi que la situation sécuritaire globale dans l'est du pays. Les difficultés d'accès à plusieurs zones de santé sur les 31 du Congo central ne permettent pas l'acheminement des vaccins dans ces zones. Conséquence, elles accusent une faible couverture vaccinale, selon le médecin-chef de zone de Mangembo, territoire de Luozi. Notre invitée est Madame Consolata Buhendwa, spécialiste programme chargée de la coordination de bureau terrain de l'UNICEF en RDC. Elle va parler de la décision de l'UNICEF de s'installer physiquement au Maniema pour assister les enfants en situation de vulnérabilité. Bonjour à tous. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au menu de la rencontre hier à Genève en Suisse entre la première ministre Judith Souminois et Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge. Les décisions de l'Union européenne face à l'agression du Rwanda dans l'est de la RDC ont également été évoquées. On écoute Maxime Prévost dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Très clairement, nous avions la Belgique et la France ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Avec mes collègues affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda. Des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelle à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées. La volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine.
En marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, la chef du gouvernement, Judith Souminois, a plaidé pour l'ouverture d'un couloir humanitaire en faveur des victimes de l'occupation rwandaise dans l'est de la RDC. Elle a aussi rencontré plusieurs personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a mis en garde contre une régionalisation du conflit si des mesures immédiates ne sont pas prises. Le Royaume-Uni a, de son côté, annoncé une série de mesures contre le Rwanda à la suite de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du Développement a fait cette annonce dans un communiqué parvenu hier à Radio Okapi. Parmi ces mesures, Londres entend limiter les activités de promotion commerciale avec le Rwanda jusqu'à ce que des progrès significatifs soient réalisés sur le terrain des hostilités. Le condensé de ce communiqué avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Dans ce communiqué, le Royaume-Uni annonce plusieurs autres mesures contre le Rwanda jusqu'à son engagement significatif dans les processus de paix menés par l'Afrique et au retrait de ses militaires du territoire congolais. Il a cité entre autres sa cessation à la participation de haut niveau aux événements organisés par les gouvernements du Rwanda, la limitation des activités de promotion commerciale et la suspension de son aide financière bilatérale directe au gouvernement rwandais et autres. Selon les mêmes communiqués, Londres juge inacceptable que Kigali cherche à résoudre ses problèmes militairement. Cependant, il préconise une solution politique au conflit qui oppose la RDC au Rwanda. Pour rappel, les ministres des Affaires étrangères britanniques ont tour à tour échangé le week-end dernier avec le président Tshisekedi à Kinshasa et le président Kagame à Kigali. Au cours de ces échanges, ces diplomates avaient rappelé à ses interlocuteurs la nécessité d'une cessation immédiate des hostilités.
Pendant ce temps, à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu hier à la Cité de l'Union africaine le nonce apostolique Monseigneur Michael Escovar. La guerre d'agression dans l'est du pays et ses conséquences humanitaires dramatiques étaient au centre de leurs échanges. Le chef de l'État et son hôte ont discuté, entre autres, des possibilités de promouvoir la paix afin que les hostilités s'arrêtent et que les populations reprennent une vie normale. Toujours à Kinshasa, sachez aussi que le procureur de la Cour pénale international Karim Khan a rencontré hier la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, sans oublier le président Félix Tshisekedi. Ce dernier l'a reçu à la Cité de l'Union africaine. La crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays était particulièrement au centre de leur discussion. À cette occasion, le procureur de la CPI a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et du M23. Ceux qui ont des preuves sur des crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité sont priés de les envoyer sur le site de la CPI, a-t-il déclaré. Pour M. Khan, la population congolaise a droit à la protection et à la justice. Il a rassuré que la CPI, qui a signé un protocole d'accord en 2023 avec la RDC, suit de près la situation qui prévaut dans l'Est. À ce sujet, une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice devrait avoir lieu en avril prochain à Kinshasa. Cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale du pays, a précisé le chargé de suivi de la coopération RDC-CPI, le professeur Taylor Lubanga. Les participants à ces assises vont cogiter notamment sur l'instauration d'une cour pénale spéciale pour la RDC. Le procureur de la CPI a aussi été reçu toujours hier par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour du suivi que la CPI assure sur les crimes commis dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Selon Karim Khan, c'est une étape clé dans la quête de la justice pour les victimes des récentes atrocités. Le président du Conseil supérieur de la magistrature l'a rassuré sur la disponibilité du pouvoir judiciaire congolais pour l'accompagner dans sa noble mission, celle de rendre justice aux victimes des graves violations des droits de l'homme dans la partie est de la RDC. Toujours à propos des exactions massives des droits humains dans l'est du pays, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, plaide pour l'application effective des sanctions contre le régime de Kigali. Des résolutions qui feront tache d'huile contre le président Paul Kagame sont attendues aujourd'hui de l'atelier qu'organise depuis hier la CNDH, selon son président Paul Nsapumukulu. Ouvert par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, l'atelier se veut un cadre stratégique et régional. Des représentants des institutions nationales et régionales des droits de l'homme, de la SADC, de l'AEC, ainsi que des leaders des organisations de la société civile locale pour contribuer au retour de la paix dans l'est du pays. Paul Nsapo parle des attentes de l'atelier au micro de Jeff Ngoy.
Des résolutions, des sanctions que nous demandons qu'elles soient effectives par rapport aux responsabilités dégagées, établies, confirmées dans différents rapports des organisations internationales et nationales sur l'agression du Rwanda à travers son armée, sur le soutien des supplétifs de ce pays, c'est-à-dire de cette armée que dirige Paul Kagame, pour que réellement les sanctions soient d'application. Ce que nous attendons de cet atelier stratégique, c'est élaborer un plan stratégique d'accompagnement du plaidoyer de populations civiles de notre pays. Une stratégie qui fera tache d'huile en Afrique, puisque les populations africaines nous ont interpellés.
Au sud Kivu, la plupart des écoles localisées dans le groupement de Mbinga Sud, territoire de Calais, demeurent occupées par les déplacés venus du groupement voisin de Mbinga Nord, ce qui perturbe la reprise des cours dans ces établissements scolaires. Ces déplacés sont dépourvus de tout le nécessaire pour la survie. Jérémy Chanvaux, président de la Société civile environnementale de Calais, plaide la cause de ces déplacés auprès du gouvernement et des humanitaires.
Tous ces déplacés souffrent parce qu'il n'y a pas aucune assistance humanitaire en vivre et en eau vivre. Il n'y a pas de l'eau. Il y a présence déjà des maladies hydriques au niveau des cas de déplacés qui sont là-bas. Et il y a déjà les cas de mort de certaines personnes compte tenu des manques de médicaments appropriés. Et là, on est au niveau du territoire d'Ijwi, chefferie de Rubenga. Au niveau de Calais, dans le groupement de Mbinga Sud, Il y a eu les déplacés de Nyamukubi-Bushushu qui sont toujours campés au niveau de Kigera, Kabale, Nyakibungo. Certaines familles sont dans les écoles, notamment à l'Institut Kigera, la 8e CEPAC Kigera, et les autres sont dans l'école primaire Boulembo de l'Église catholique. Et là, il y a un encombrement de beaucoup de déplacés qui restent aussi sans aucune assistance.
En Ituri, ce sont environ 70 personnes qui ont déjà été tuées depuis janvier par les ADF dans la chefferie de Walesevonkutu au sud du territoire d'Irumu. Ces chiffres ont été rendus publics lundi par la société civile de cette entité dans son rapport de monitoring de la situation sécuritaire. Selon cette structure, la majorité des victimes sont des agriculteurs qui ont rejoint récemment leur village d'origine, ce qui vient accroître la vulnérabilité de la population qui a de la peine à exercer les activités agricoles. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation sécuritaire reste encore très critique dans plusieurs entités de la chefferie de Walesevonkutu dans la partie sud du territoire d'Irumu, précisément sur le tronçon Komanda-Luna. Les ADF ont intensifié les attaques dans les localités qui hébergent de nombreux retournés des guerres. Depuis les débuts de cette année, la société civile locale dit avoir répertorié au moins 70 morts, des dizaines de maisons incendiées ainsi que des biens pillés par les rebelles. Une dizaine de localités sont actuellement occupées par ces ADF, notamment dans les groupements Bandiangu, Banda Vilemba, Bokutu et Bavonkutu. Le premier vice-président de la société civile de Walesevonkutu indique que cela accentue la vulnérabilité de la population. Dieudonné Malangaï.
Et l'ennemi qui embrise surtout au sud du territoire d'Irumu, c'est les ADF et leurs supplétifs dans la chefferie de Walesevonkutu, comme le puissantre, surtout des exactions de ces présumés ADF, qu'aujourd'hui la population se trouvant sur cette tronçon est enclavée.
La société civile locale plaide pour l'intensification des opérations militaires sur l'axe Komanda-Luna par les forces conjointes FARDC et armées ougandaises pour garantir la sécurité de la population. Depuis Komanda, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Parlons santé à présent. Dans la province du Congo central, plusieurs zones de santé sur les 31 de la province accusent un sérieux problème de disponibilité des vaccins, entraînant une faible couverture vaccinale. D'après le médecin chef de zone de santé de Mangembo, situé dans le territoire de Luozi, cette situation est due notamment à une difficulté d'accès de ces zones. Le point avec Nana Plurich Mambou.
D'après Dr Bonheur Chitekou, chef de division provinciale à la santé du Congo central, cette zone de santé sur les 31 qui compte la province ont un accès très difficile. Il s'agit de Kwimba, Kibunzi, Luozi, Mangembo, Kimvula, Nselo, Ngidinga et Kimpangu. Toutes ces zones n'atteignent pas tous les enfants ciblés pour la vaccination. Le médecin chef des zones de Kimpangu avance quelques raisons. Docteur José Lumpini.
C'est vrai, la disponibilité pose un grand souci. Premièrement, pour que le vaccin quitte l'antenne, la route est vraiment impraticable. Mais aussi de faire quitter les vaccins du bureau central vers les aires de santé, là aussi c'est vraiment un calvaire.
Pour y remédier, le médecin chef des zones de santé de Mangembo, docteur Justin Lusekwa, propose.
Nous demandons à ce qu'il y ait quand même l'augmentation de l'enveloppe des prestataires sur le terrain, parce que lorsque ils ne sont pas vraiment motivés sur le terrain, leur sera vraiment difficile d'atteindre pour certains les aires de santé avec accès difficile.
Pour mieux suivre les activités vaccinales du bureau central vers les aires de santé, ces zones de santé sont aussi butées à un manque de charrois automobiles. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et pendant ce temps, dans le Tanganyika, poursuite ce mercredi de la campagne de vaccination contre la rougeole dans la zone de santé de Moba. D'après le médecin chef de zone, 3 enfants sur 159 cas de rougeole sont morts depuis les débuts de cette année. Il appelle les parents à faire vacciner leurs enfants. Paul Amunanga.
Les enfants de 6 à 59 mois sont concernés par cette vaccination. Le médecin chef des zones de santé de Moba annonce que des centaines de cas de rougeole ont été aussi enregistrés en 2024, dont quelques décès. Au cours de son adresse lors du lancement de la campagne, Ricky Mbayo appelle les parents à faire vacciner leurs enfants.
Tangu mwakajana, turkuya mwenzi,
Depuis le mois d'août de l'année passée, à la 33e semaine jusqu'à la fin de l'année, les différentes aires de santé ont enregistré plusieurs cas. Il y a eu au total 369 cas de rougeole et dans les 369 cas, nous avons perdu cet enfant. J'aimerais vous demander que nous ne puissions pas encore perdre des enfants comme l'année passée ou comme nous avons déjà perdu les enfants depuis le début de cette année à cause de la rougeole. Si nous les parents faisons vacciner nos enfants. Signalons que cette campagne de vaccination a été lancée depuis lundi dernier et va durer 5 jours. Elle est organisée par la zone de santé de Moba avec l'appui des Médecins Sans Frontières France.
Hier, nous étions le mardi 25 février 2025. Ça fait 23 ans depuis que Radio Okapi existe. À Bénin au Nord Kivu, certains analystes et observateurs saluent le travail abattu par cette radio des Nations Unies pour relever les défis des informations partisanes et partiales, dont la plupart avaient pour objectif de diviser les communautés congolaises. Papi Kasereka, analyste politique, estime que la Radio Okapi a joué un rôle crucial dans la construction et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo par son impartialité dans le traitement des informations. Papi Kasereka, analyste politique dans la région de Beni, est au micro de Marc Marofimbo.
Je voudrais surtout souligner le fait que la Radio Okapi est arrivée dans un contexte où les pays étaient pratiquement morcelés et a joué un rôle extrêmement considérable parce que vous savez que ce qui distingue la Radio Okapi par rapport à d'autres radios, c'est cette neutralité-là dans le traitement des informations. Vous allez vous rendre compte que lorsque la Radio Okapi arrive, on avait souvent des radios des individus. Donc on avait les informations qui étaient traitées souvent soit par des journalistes pro-Kabila ou alors par des journalistes pro-Bemba, comme les grands chefs politiques de l'époque, quoi. Et ça faisait en sorte que pour avoir une version plus nette, plus nuancée et équilibrée, il fallait donc suivre une autre radio. La Radio Okapi a travaillé dans le cadre de relèvement de ces défis. Nous savons qu'elle a joué un rôle crucial dans la construction de la paix au pays grâce à sa manière de travailler, au professionnalisme de ses journalistes, dans les traitements, dans l'analyse, le partage des informations qui sont fiables, qui ont été corroborées. Et ça, c'est un travail que je voudrais saluer à l'occasion de ces 23e année de l'anniversaire de la Radio Okapi.
L'invité. L'invité de Radio Okapi ce matin, c'est Madame Consolata Abouhendwa, spécialiste programme chargée de la coordination des bureaux de terrain de l'UNICEF en RDC. Elle s'exprime sur la décision de cette agence de Nations Unies de s'installer physiquement au Maniema pour assister les enfants en situation de vulnérabilité. Consolata Abouhendwa s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Consolata Abouhendwa, bonjour.
Bonjour.
UNICEF, nous vous voyons ces derniers temps, vous êtes visible dans la province du Maniema. Est-ce c'est le retour de UNICEF au Maniema?
Merci madame pour la question. Je ne peux pas dire que c'est le retour. L'UNICEF a toujours été au Maniema. L'UNICEF a appuyé le Maniema à partir de notre bureau de Goma. Pendant tout ce temps, il n'y avait pas un bureau physique de l'UNICEF au Maniema. Mais cela ne veut pas dire que l'UNICEF avait abandonné les enfants de Maniema. À partir de notre bureau de Goma, on a appuyé dans tous nos programmes de secteur dans lesquels nous appuyons. Et le Maniema était toujours au cœur dans toutes les activités de l'UNICEF. Mais maintenant, ce qui change, c'est quoi? Aujourd'hui, après l'analyse et la validation de notre plan de travail quinquennal qui va de 2025 en 2029, le Maniema, selon un critérium bien défini, a été ciblé comme une province où il faut la présence physique de l'UNICEF. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici avec toute une délégation pour venir voir la faisabilité et venir déjà voir les actions concrètes que nous devons mener pour pouvoir installer les bureaux ici au Maniema.
Vous appuyez de loin, maintenant vous voulez être proche et installé sur place. C'est-à-dire, vous avez trouvé qu'il y a nécessité, c'est quoi ce qui bouge beaucoup pour attirer UNICEF en ce sens?
En fait, comme je l'ai mentionné, il y a toute une étude qui a été faite, toute une analyse, et la province du Maniema a été une province où on a vu beaucoup de vulnérabilités par rapport aux enfants. Par exemple, nous avons beaucoup d'enfants en malnutrition, nous avons beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, il y a des problèmes d'accès à l'eau, et toutes ces choses-là ont fait que l'UNICEF a trouvé utile de pouvoir se rapprocher beaucoup plus de la population de Maniema. Et c'est pour ça que, au lieu de continuer à pouvoir répondre aux besoins à partir de Goma, on a trouvé utile qu'on ait un bureau physique pour pouvoir interagir directement avec le gouvernement provincial du Maniema. Comme vous le savez déjà, c'est un programme de coopération entre l'UNICEF et la République démocratique politique du Congo. Et dans ce sens, ça nous permet de pouvoir être présents et de travailler conjointement avec le gouvernement provincial, avec les membres de l'Assemblée provinciale, sous l'égide du ministère du Plan et la division du Plan qui ont les titelles de la gestion du programme de coopération dans les provinces.
C'est dans quel domaine que vous allez intervenir? C'est toujours dans vos domaines habituels ou bien il y aura une exception pour la province du Maniema?
Généralement, l'UNICEF travaille autour de l'intérêt de l'enfant. L'enfant est au centre de l'intérêt. Tout s'articule sur les droits de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant ait accès à une bonne santé, à une bonne alimentation, que l'enfant ait accès à l'eau potable, que l'enfant ait accès à l'ajustement lorsqu'il est né, que l'enfant puisse être vacciné et l'enfant soit protégé. Donc, les programmes habituels de l'UNICEF seront maintenus. Mais au-delà de ça, il y a toutes les questions transversaux, notamment les questions entre le travail avec les communautés, mettre les communautés au centre de nos interventions, le travail sur les questions de l'environnement, le travail sur les questions du genre, les questions des violences ou des questions des viols, tous ces aspects vont être pris en charge au niveau de Maniema.
La population de Maniema peut espérer qu'avec la présence physique de UNICEF au Maniema, vous allez aussi prendre en compte cette question des enfants 0-12 et non vaccinés. Ce sera vraiment une préoccupation de l'UNICEF.
C'est une priorité. Une des choses sur lesquelles nous avons trouvé qu'il y a des faiblesses au Maniema, exactement, ce sont les enfants non vaccinés. Et nous pensons que c'est maintenant ou jamais que nous devons y travailler. Et pour votre Auguste, nous avons déjà des équipes de consultants sur la communication qui sont ici dans le cadre de l'appui de la vaccination des enfants et spécifiquement sur les questions de la polio. Et donc l'UNICEF sera présent dans ces aspects là-bas. Nous allons travailler ensemble pour voir comment récupérer tous ces enfants pour qu'ils puissent avoir aussi accès à la vaccination comme tous les enfants dans le monde.
L'enfant est au centre de votre priorité. Pour que vos objectifs soient atteints, vous avez besoin de quoi?
Nous avons juste besoin que le gouvernement puisse nous accompagner. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement provincial, et nous l'avons senti, je ne peux pas ne pas dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec tous les membres de son gouvernement et même les membres de l'Assemblée provinciale qui nous ont bien accueillis, qui sont prêts à pouvoir nous accompagner dans ce processus et pouvoir mobiliser non seulement les moyens, mais aussi les communautés pour pouvoir nous accompagner. C'est très important que les communautés qui bénéficient de nos actions puissent être au centre de tout ce que nous faisons.
Madame Consolata Bouendoua, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.